Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h47, l'heure est à l'écologie avec Céline Cousteau, Le Monde après mon grand-père aux éditions Fayard, petite fille du commandant Cousteau Bonnet Rouge. Hein, vous êtes militante écologiste et documentariste. Bonjour Céline.
Bonjour.
Ce livre, voilà, vous retracez un petit peu la vie, votre vie avec votre grand-père qui vous a initié naturellement à l'écologie.
Oui, alors, enfin, plus que retracer, je fais hommage à ma famille. Bien sûr, à mon grand-père, c'est celui qui était connu dans ma famille, mais il y avait également ma grand-mère, qui a voyagé plus que mon grand-père d'ailleurs, mon père, ma mère, et maintenant mes cousins, mon frère et moi.
Ouais. Mais on a l'impression quand même que vous voulez transmettre un message dans ce livre. Quoi. C'était le message que vous voulez transmettre aux futures générations, le commandant Cousteau, attention, la planète, il faut vraiment en prendre soin, elle est fragile.
Ben, je pense que la génération maintenant, la jeune génération, est au courant de ce qui se passe. On le voit souvent, ils sont dans les rues, ils se manifestent dans les réseaux sociaux. Ils ont un accès justement aux médias et une voix qu'ils peuvent partager, donc je trouve ça génial. Ce livre, j'ai voulu l'écrire parce que moi, j'ai senti l'urgence depuis longtemps. Mon grand-père en a parlé, donc déjà, il y a 20 ans. Là, maintenant, je l'ai vraiment dans les tripes. Je dis pourquoi on n'écoute pas, pourquoi on n'arrive pas à comprendre que l'environnement, c'est nous. Et que si on a un problème environnemental, c'est les humains qui vont en souffrir.
Oui, bien. Certains, pardon, disent que c'est trop tard.
Ah non, mais on ne peut pas dire que c'est trop tard. Parce que si on dit c'est trop tard, on ne se bat pas. On ne se défend pas. Si on a des enfants, on ne peut pas dire que c'est trop tard. Et moi, c'est ça, en fait, qui me mène. On m'a demandé, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? J'ai dit, je suis obligée d'être optimiste. Sinon, c'est très dur de se lever le matin.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Parce que vous avez beaucoup voyagé. Vous voyagez peut-être un petit peu moins maintenant, mais vous avez le virus, hein, si je puis dire, de votre grand-père aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Vous racontez beaucoup l'Amazonie dans votre livre.
Bah, l'Amazonie est très... pour moi, c'est très important. C'est une passion qui a commencé à 9 ans, comme je raconte dans le livre. C'est un moment qui est resté en moi, mais beaucoup de sensations, ce que j'ai ressenti physiquement, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti dans l'air. Pour moi, ce qui me frappe vraiment, c'est ce lien de l'être humain avec la nature, que je vois souvent chez les peuples indigènes, donc en Amazonie notamment. C'est la relation de l'être humain, le scientifique par exemple, qui est passionné d'un oiseau.
Ouais.
Et quand on voit cette passion, on réalise que ce n'est pas juste quelque chose qui l'intéresse, c'est vraiment un lien très proche de la nature. Et je pense que ça, on a tous cette capacité. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que plus de gens réalisent, nous sommes une espèce, entre autres, nous dépendons de la nature, c'est notre...
On dépend des uns des autres.
On dépend des uns des autres. Et le futur d'un peuple, ça va être le nôtre aussi.
Oui. Sur le quotidien, parce que les petits gestes du quotidien qui est plus proche de nous, le masque par exemple, on en voit partout, dans les rues, jeté par terre, ça devient un vrai problème.
Ah, c'est un vrai problème. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec ça, c'est qu'on est déjà passé par là avec la paille en plastique. Et on a mis plus d'une dizaine d'années à lutter contre. On arrivait juste à bannir la paille en plastique et maintenant on a le masque. Je pense qu'il faut se rendre compte... Même si le virus, même si le coronavirus, on résout le problème d'ici un an, il y aura beaucoup de masques d'ici là.
On va changer quand même beaucoup nos comportements avec cette crise sanitaire et puis la suite, même si on vient à bout de ce virus. C'est-à-dire que, par exemple, la mondialisation, le commerce sans beaucoup de règles finalement, les déplacements également. Là, vous pensez que les gens vont prendre conscience et qu'il faudra imposer des choses quand même assez fortes?
Moi, je pense qu'il faut imposer des choses très fortes.
Ouais, ouais.
Et justement, cette époque qu'on est en train de vivre maintenant, c'est une opportunité pour changer notre comportement. Moi, par exemple, vous l'avez dit, je voyage moins qu'avant. En fait, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pesait lourd en me disant, je voyage beaucoup pour défendre la planète. Donc, quelque part...
Voilà, vous n'étiez pas très à l'aise, quoi.
J'étais pas très à l'aise.
En disant,
moi-même,
j'attaque là. Oui, oui.
Voilà, pour faire des conférences à droite, à gauche. Alors maintenant, on peut faire des conférences virtuelles.
Ouais. Donc,
pourquoi pas, justement, dire, c'est une opportunité pour changer notre comportement. Mais il faut en être conscient. Et je pense que les gens qui étaient conscients avant le confinement, vont le rester. Ceux qui étaient curieux, j'espère, vont avoir un changement de comportement. Et ceux qui s'en foutent, malheureusement, j'ai peur
on n'empêchera quand même pas les gens de voyager. Imaginez, vous qui avez ça, effectivement, en vous, c'est difficile quand même. Ça,
je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens de voyager. Et il y a beaucoup de pays qui dépendent du voyage et du tourisme pour leur économie. Donc, on ne peut pas dire, les voyages, c'est fini.
Oui, il y a la démographie galopante dans certains endroits. L'Amazonie, en fait, autour de l'Amazonie, le Brésil, que vous connaissez bien, c'est aussi face à cela que derrière, il y a une déforestation pour que les gens vivent de leur culture.
C'est la consommation. Il faut voir
c'est compliqué, ça, non, vous en parlez.
C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et j'essaye de le rendre assez simple pour que ce soit gérable par la plupart de la population. Mais le fait est que si on consomme, on détruit. Donc, il faut consommer moins de viande,
ou différemment.
Par exemple, ou différemment,
Mais est-ce que vous sentez une prise de conscience, vous qui voyagez beaucoup, de gens qui se rendent compte que finalement, il faut freiner certaines choses ou...
Oui, je la vois, cette prise de conscience, mais en même temps, je pense que ce n'est pas assez rapide. Et vous venez de le dire il y a quelques minutes, on a sonné l'alarme il y a plus de 20 ans, on a dit c'est trop tard maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? En même temps, il ne faut pas qu'on soit majoritaire pour faire un énorme changement, parce que c'est un changement de conscience aussi. Que si on change une petite habitude le matin, au lieu de porter un masque jetable, on en prend un lavable, au lieu de prendre une bouteille en plastique, on remplit la bouteille. Je pense que ça aussi, il y a une espèce de contagion positif, où tout d'un coup, tous les gestes deviennent automatiques. Et on influence les gens autour de nous. C'est ça qui est important.
Oui. Un mot quand même aussi pour revenir sur votre grand-père. Parce que finalement, vous racontez beaucoup de choses, mais plus sur terre, moins en mer. Vous êtes moins passionné par la mer quand même, non ? Vous en avez, entre guillemets, trop soupé à un moment donné dans votre jeunesse ?
Je crois que ma maladie, c'est que je suis passionné par tout.
Ouais.
Et dès que quelqu'un a une passion pour une histoire, un lieu, un peuple, une espèce, je me laisse emballer. C'est vrai que ces dernières années, ça a été beaucoup en Amazonie, mais c'est parce que j'ai un lien avec les peuples du Valais de Javari. Ils sont 5000. Ils m'ont demandé de raconter leur histoire parce qu'ils ne veulent pas mourir.
Ouais.
Et parce du coup, c'est... Voilà,
ils sont en voie de disparition.
Alors, je ne dirais pas en voie de disparition parce que c'est quand même...
Mais fragile.
C'est extrême, ils sont fragiles et vulnérables. Ouais. On l'a vu dans les années précédentes, encore plus maintenant avec le gouvernement qui est en place au Brésil. Et ils ressentent cette menace avec toutes les activités illégales, que ce soit la pêche, les mines, la déforestation, et de plus avec le Covid qui est vraiment à leurs frontières et maintenant dans leur territoire. C'est critique.
Eux veulent rester à l'écart de la modernisation de la...
Ils veulent choisir leur destin.
Ils veulent choisir.
Ils veulent choisir.
Parce qu'il y en a certains qui, au contraire, sont attirés par le monde moderne,
Ils sortent de leur territoire, ils sont dans un village ou dans une petite ville en bordure du territoire. Je ne vais pas dire que c'est l'endroit idéal.
Ouais.
Donc nous, on va faire un projet justement des formations, de l'éducation, une indépendance économique pour qu'ils ne tombent pas justement dans les activités illégales. Mais on ne peut pas leur dire qu'ils ne peuvent pas progresser.
Alors, à une autre échelle, quand vous voyez aujourd'hui l'ensemble en fait, des métropoles avec tous leurs problèmes et que vous voyez des espaces encore, pas vierges, mais même en France, la campagne, vous avez vécu aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retour un peu quelque part à la Terre ou que ce n'est qu'une utopie ?
Je pense qu'il y a déjà un retour à la Terre. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui m'ont dit « Ah, j'ai commencé un petit jardin potager, j'aimerais bien vivre à la campagne. » Bon, on ne peut pas tous quitter les villes en même temps, mais on peut chez soi faire un petit jardin, avoir une plante, avoir un changement de conscience, emmener ses enfants au parc au lieu de partir marcher dans la ville. Moi, je trouve qu'il faut enlever ses chaussures et marcher sur l'herbe.
Ouais.
Et même dans des endroits à Paris, on peut le faire.
Ouais,
c'est pas impossible.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup Céline Cousteau, petite fille du commandant Cousteau, militante écologiste et documentariste pour ce livre « Le monde après mon grand-père » aux éditions Fayard.
Oui, absolument. Il y a toujours d'ailleurs des docs que vous aviez fait il y a quelques années même thème.
J'ai fait un documentaire qui s'appelle « Tribes on the Edge » qui va être disponible aux États-Unis pour le moment, peut-être l'année prochaine, j'espère. On a fait un projet pour France 3 sur la Patagonie et il y en a un qui va sortir sur Madagascar, date à venir.
Voilà, des beaux projets à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de vos appels au 0826 300 300. Et puis nous on se retrouve demain matin, Patrick.
Oui, absolument, dans un instant c'est Valérie Expert
et
avec
Grégory Fitoussi.
Grégory Fitoussi, dites-moi tout.
Il est beau.
Ah bon?
Non, mais c'est un acteur français, si, bah, talentueux. Oui,
Cécile, je vais vous laisser aller tranquillement voir Grégory.
Non, mais je suis obligée de passer dans le studio, il faut que je parle à Valérie.
Appelez-le Greg, hein, bien sûr. Il sera donc avec nous. Ensuite, Dédé Berkoff sur le pont, Brigitte Lahaye cet après-midi, et Trina McDean, Les Vraies Voix, n'oubliez pas Yvan Quejous. Et puis, le nouveau rendez-vous du soir avec Muriel Hermine. Écoutons-nous chaque soir de 21h à 22h30. Toutes les confidences, justement, les défis que l'on peut s'imposer. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il y en a, en fait, des défis, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Écoutez-la, ça fait beaucoup de bien.
En tout cas, on vous souhaite une belle journée avec Sud Radio.
À demain.
Salut.
Sud Radio.